Nous allons prier. Oui, notre Père, nous te remercions de ce que tu as conduit notre sœur là-bas au Vietnam et merci pour tout ce qu'elle a pu faire. Merci de ce que tu as protégé aussi. Et nous te prions, Seigneur, que tu la diriges pour l'avenir. Tu sais ce qui est le meilleur pour elle et pour ceux qui écouteront ce qu'elle dira. Seigneur, nous te prions pour que tu la bénisses. Seigneur, nous te remercions aussi parce que nous pouvons aussi ensemble écouter ta parole ce matin. Et je te prie, Seigneur, de me donner ta puissance, ta force pour parler selon toi et que nos cœurs soient ouverts. Et nous te prions aussi pour que les enfants reçoivent ta parole. Nous t'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a 15 jours, nous avons parlé ensemble de deux groupes qui se sont mis ensemble pour questionner Jésus dans le but de l'arrêter et de le mettre à mort. C'était les pharisiens et les hérodiens qui étaient venus vers Jésus en lui posant la question « Mais est-il permis de payer l'impôt ?» Et nous savons ce que Jésus a répondu. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et nous avons vu ensemble par rapport à notre position par rapport aux autorités, par rapport aux impôts. Et nous avons vu aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné le mouvement et l'être, la vie, et combien on doit lui donner tout. Parce que rendre à Dieu ce qui est à Dieu, la gloire et l'honneur. Aujourd'hui, nous allons voir un autre groupe qui va poser une question à Jésus. Et ce groupe va poser cette question, mais ça ne va pas être dans le but d'arrêter Jésus, mais c'est dans un but théologique, dans un but pour dire, voilà, nous avons raison. Notre façon de penser, notre façon de croire est bonne. Donc nous allons voir ensemble ce matin, c'est dans Marc chapitre 12. C'est un récit qui se retrouve dans Matthieu, Marc et Luc. Marc 12, à partir du verset 18. Marc 12, à partir du verset 18. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici que Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari. » Mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc on voit un groupe, c'est les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un parti religieux opposé aux pharisiens. Ils étaient moins nombreux, mais ils faisaient partie de la haute classe. Ils faisaient partie surtout des prêtres, des sacrificateurs, c'était les gardiens du temple. C'était des personnes qui étaient très influentes aussi au niveau du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un tribunal suprême des Juifs et une organisation gouvernementale qui était là. Et c'était des personnes qui, pour eux, ne croyaient pas à la tradition orale. Pour eux, ils retenaient que les 5 premiers livres de Moïse, le Pentateuque, Pour eux, c'était ça le principal, c'était les livres de Moïse, ce que Moïse avait dit. Ils ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. On peut dire que c'était des libéraux de l'époque, des rationalistes, des personnes qui faisaient travailler beaucoup la raison, et tout ce qui n'était pas selon logique pour eux, eh ben c'était faux, c'était une erreur. Donc, ces hommes sont venus vers Jésus dans le but de dire, ben voilà, ils posent une question à Jésus, mais ils ont plus ou moins la réponse pour eux. Ils savent qu'avec leur argument, c'est un argument béton, que Jésus ne pourra pas répondre, et fier de poser la question, mais en démontrant qu'ils ont raison. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous d'avoir des personnes qui viennent vous voir et qui veulent dire, vous êtes grandement dans l'erreur, vous. Hein? Vous croyez en Dieu ? Et ils avancent toutes sortes d'arguments philosophiques ou arguments scientifiques, ou qui disent, bah, arrêtez, ne dites pas que Dieu existe. La preuve, regardez, regardez ces guerres, regardez ces maladies, regardez ces catastrophes. Et surtout, en ce moment, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis janvier, il y a eu Haïti, il y a eu le tremblement de terre en Chine, il y a eu le volcan, il y a eu maintenant c'est la marée noire, il y a eu le problème en Vendée. Les personnes s'interrogent. Et j'ai lu cette semaine quelqu'un qui disait, c'est important que les gens puissent se rendre compte. Les hommes et les femmes se croient maîtres du monde, mais qui ne nous oublient pas, qui sont simplement des locataires. On n'est que des locataires sur la terre. Oui, avec leurs arguments. Ils disent, voilà, on prouve avec nos arguments que Dieu n'existe pas. Comme ces Sadducéens, voilà, avec notre argument, eh ben on prouve qu'il n'y a pas de résurrection. C'est impossible. Et ils prennent quand même un passage de la Bible comme base. Leur argument est appuyé sur la Bible. Ils prennent Deutéronome 25, verset 5. C'est à propos de la loi de Livera, ça s'appelle. C'était dans le but de garder le nom en Israël. Je vous le lis, hein, c'est dans Deutéronome 25, verset 5. Il dit, « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. » Donc c'était dans ce but-là. Donc ils prennent un argument biblique, ils prennent un passage, ils disent « Moïse a dit ça !» Mais le problème, ils ont pris la parole de Dieu, mais ils ont raisonné d'une façon humaine, avec leur pensée, avec leur logique. Pour eux, on dit, bah d'accord. Avec cet argument-là, d'accord. Et là, ils ont toute une histoire. Alors, on ne sait pas est-ce que c'est une histoire inventée ou pas. En tout cas, il y a un parallèle dans les livres apocryphes, dans le livre Tobie, où il y a à peu près cette histoire similaire. Donc, est-ce qu'ils se sont inspirés de cette histoire-là? En tout cas, pour eux, ils ne pouvaient pas avoir de résurrection, parce que c'était impossible pour cette femme d'avoir sept maris au ciel. Donc, c'était leur argument, on pourrait dire, béton. Et je pense, on peut supposer même, que à chaque fois qu'il y avait une discussion avec les pharisiens, parce que les pharisiens croyaient à la résurrection, croyaient aux anges, croyaient aux esprits, ils devaient leur dire, attendez, et ils avançaient cet argument-là. Et puis, les pharisiens ne pouvaient pas sans doute répondre, à part dire, mais si, dans le livre de Job, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Daniel, il nous parle de résurrection. Mais comme ces hommes prenaient que les cinq premiers livres, c'était essayer de les convaincre. C'était pas si évident que ça. Alors ils attendaient la réponse de Jésus. Et Jésus leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur. À deux reprises, il dit, vous êtes dans l'erreur, grandement dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Votre interprétation est complètement erronée. Vous ne comprenez pas les Écritures. Et c'est ça, quand l'homme essaie de réfléchir avec sa propre tête, avec sa propre pensée, avec ses propres raisonnements, sans s'attendre à Dieu, et part dans toutes sortes d'idées assez bizarres, parce que l'homme, en fin de compte, se croit intelligent, se croit sage, se croit plus fort que Dieu, et il essaie d'interpréter les Écritures, mais hélas, il les interprète mal. Je pense à un moment donné à Pierre, qui, à un moment donné, a bien interprété quand Jésus a posé la question, mais au dire des hommes, qui je suis ? Il y en a qui disent, ah, mais il y en a qui disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, et vous ? Là, Jésus dit, mais c'est là où Pierre dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, mais tu as raison, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Puis quelques temps après, quelques instants après, Jésus parle de ce qui va être livré, crucifié. Et là, Pierre dit, mais non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Et c'est là où Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et il lui dit ceci, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est très important quand nous interprétons la parole de Dieu. Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou est-ce que c'est la pensée des hommes ? Il y a d'autres passages. Dans Ésaïe, il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, Dieu est au-dessus de nos pensées. Dans Job, il est dit ceci, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que seras-tu ? » Et même pour un homme naturel, les choses de Dieu pour lui, c'est une folie. Il y a des choses qui disent, mais c'est pas possible. Dieu est dit, c'est pas possible. Comment ça ? Injuste ? Qui est mort pour des injustes, quelqu'un qui est mort à la place de quelqu'un d'autre. C'est de la folie. Et c'est pour cela qu'il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Et un peu plus loin, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu n'est pas contre les questions. Nous avons des questions. Nous pouvons poser des questions à Dieu. Mais ça dépend dans quelle attitude que je pose la question. Est-ce que c'est dans une attitude arrogante, orgueilleuse, défiant Dieu, ou est-ce que c'est dans une attitude humble ? On peut dire, Seigneur, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qui me dépassent. Comment je peux être sauvé? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Nous sommes face à des difficultés. Il y a des questions que l'homme peut se poser. Et Dieu répond. Si c'est dans une attitude d'humilité, dans une attitude non arrogante. Et c'est pour cela que dans le psaume 25, il est dit ceci, et c'était le psalmiste qui posait des questions à Dieu, où il disait, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Un peu plus loin, il est dit, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ouais, si vous avez des questions ce matin, vous pouvez les poser au Seigneur, en disant, voilà, je ne sais pas, j'entends certains qui disent qu'ils sont sauvés, moi je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Posez la question à Dieu. Vous pouvez dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Et il le fera. Mais faites attention. Ne soyons pas ces personnes arrogantes qui, avec des arguments, veulent mettre Dieu en défaut. En disant, mais c'est toi qui as tort et c'est moi qui ai raison. Tellement l'homme se croit tout et se croit au-dessus de tout. Il se met plus le juge au lieu d'être celui qui veut écouter. Alors, Jésus va leur répondre à leurs questions. Il va leur dire, écoutez, il n'y a rien à voir entre la terre et le ciel. On ne peut pas calquer ce qui se passe sur la terre au ciel. C'est pas parce que sur la terre, les hommes se marient et les femmes se marient et qu'ils ont des enfants, que ça sera pareil au ciel. Non. D'ailleurs, il dit, ils seront comme des anges. Il ne dit pas qu'ils seront des anges. Ils seront comme des anges. Hein, c'est une nuance, mais c'est important. Ils seront comme des anges. Ils seront immortels. Et les anges n'ont pas ni de femme, ni... Il n'y a pas de mariage. Et ça sera de même. Vous serez immortels, mais il n'y aura pas de mariage là. Ben leur argument, ben ils tombent à l'eau. Ils n'avaient pas pensé à ça. Vous voyez, leur argument était, ils pensaient qu'au ciel, ça serait pareil que sur la terre. Alors donc, voilà, ils interprétaient les Écritures selon ce qu'ils connaissaient, point de vue terrestre. Alors, ils disent, bon, ben, si c'est comme ça se passe, ça se passera comme ça là-haut. Eh ben non, leur argument était complètement faux. Pour nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection. Nous savons. Nous avons cette espérance. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous connaissons tout, est-ce que nous comprenons tout? Non. Il y a des choses qui nous dépassent quand on nous parle de résurrection, quand on nous parle du ciel. C'est vrai qu'il y a des gens qui avancent certaines choses. Méfions-nous de ce qu'on avance par rapport à ce qui va se passer là-haut. Tenons-nous à ce qui est écrit. N'ajoutons pas ce qui n'est pas dit. Parce qu'il y a des fois, il y a toutes sortes de choses. Des fois, ça me fait un peu... Jusqu'où ils vont trouver ces choses-là? Non, attachons-nous à ce qui est écrit. Dieu nous donne assez d'éléments pour savoir un au-delà, pour la résurrection. Il nous donne ses promesses et il nous montre aussi la différence. Tout à l'heure, je vous disais, entre le terrestre et le céleste. Et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15... Versets 42 à 50. Oui, dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Car je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc là, dans ce passage, il nous montre la différence entre un corps terrestre et un corps céleste. Et nous croyons dans tout ce chapitre 15 qui nous parle que nous croyons à la résurrection. Parce que s'il n'y avait pas de résurrection, notre foi serait vaine. On serait encore dans nos péchés. Mais nous savons qu'il y a résurrection parce que Christ l'a prouvé. Lui qui avait dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et c'est pour cela que nous pouvons être consolés quand des personnes chères nous quittent. Parce que la parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Un chrétien a cette espérance. Il sait qu'il va ressusciter et qu'il sera dans la gloire. Il a cette assurance-là. C'est une assurance qui est forte. C'est quelque chose qui est dans nos cœurs, que nous avons reçu le jour où on est né de nouveau. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Nous avons cette assurance de cette résurrection. Et nous avons vu jeudi soir, on a parlé de ce verset de Philippiens 3, 20 à 21 où il dit « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Là, il nous parle de la puissance de Dieu. Nous avons vu par rapport à l'interprétation des Écritures, mais aussi penser à la puissance de Dieu. Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, lui qui a formé l'homme de la terre. Rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu souverain. C'est le Dieu au-dessus de tout. Vous savez, quand Marie, l'ange est venu la voir en lui disant qu'elle allait mettre au monde un fils, elle appellera le Très-Haut, elle a posé une question, mais pas arrogante. Mais comment cela puisse se faire? Je ne connais pas d'homme. Et le Seigneur lui répond, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Contrairement à ce que disait Napoléon, il disait que rien n'est impossible aux Français. Non, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a accepté. Et nous savons que c'était par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Le Seigneur est tout puissant de faire même naître un enfant sans père. Le miracle de Dieu. La puissance de Dieu. Et si Dieu a pu créer l'homme de la terre, à combien il peut ressusciter, même à descendre? Alors c'est vrai qu'il y en a que la résurrection, il la nie, non pas parce que ça les dérange, parce qu'ils ont peur du jugement. C'est pour ça qu'il y en a qui se font incinérer. Il y en a qui se font incinérer et puis qui disent « Allez, jetez-moi dans la mer et comme ça, là, je suis sûr de ne pas ressusciter. » C'est vrai. Il y a des personnes qui se font incinérer et se font jeter les cendres dans la mer pour être sûr de ne pas ressusciter. Et pourtant, la Bible nous dit, regardez un passage de la parole qui nous explique, ben, ils vont ressusciter même s'ils sont jetés dans la mer. Dans l'Apocalypse, Il dit, et puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Eh oui. Et le Seigneur va quand même donner un argument biblique. Et il va s'appuyer sur les 5 livres de Moïse, sur le livre d'Exode. Parce que pour eux, il n'y a pas de... On ne parle pas de résurrection dans les 5 livres. Non. Ben si. Et Jésus va dire, vous avez mal lu. Lisez. Qu'est-ce que vous avez lu? Regardez. Et combien des fois on lit des choses et on ne fait pas attention à ce qui est écrit. Mais est-ce que vous n'avez pas lu? À propos de Moïse? Par rapport au buisson ardent? Qu'est-ce qu'il est dit là? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, mais quand c'était écrit et quand Moïse a entendu cela, ça faisait 4 siècles qu'ils étaient enterrés. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit pas, j'étais le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Même Abraham, Isaac, Jacob, par esprit, ils étaient vivants près de Dieu. Ils attendent la résurrection des corps. Mais devant Dieu, ils sont vivants. Et c'est important de savoir cela. Et une petite leçon. Il dit... Dieu lui-même dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On sait que Abraham croyait en Dieu. Nous savions que Isaac croyait en Dieu. Mais c'est fort quand c'est Dieu qui dit, moi je suis son Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je crois en Dieu. Mais est-ce que Dieu peut dire, je suis son Dieu? Est-ce que vous comprenez la nuance. Ah, moi je crois en Dieu. Oui, mais est-ce que Dieu dit je suis son Dieu? C'est une question à répondre. Je connais Dieu, mais est-ce que je suis connu de lui? Et que Dieu dise qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire je les prends sous ma protection. Je suis leur Dieu, je suis là pour eux, pour les garder, pour les préserver, pour les conduire. J'ai fait une alliance avec eux. Et mon alliance est éternelle. Est-ce que Dieu peut dire, voilà, oui, je suis ton Dieu. C'est important de se poser la question. Tout à l'heure, nous avons parlé de la seconde mort. Là, je vais vous donner quelque chose de pas logique. Si je nais deux fois, je meurs qu'une fois. Et si je nais qu'une fois, je meurs deux fois. Si je nais deux fois, je meurs qu'une fois. Et si je nais qu'une fois, je meurs deux fois. C'est pas logique, hein? Qu'est-ce que c'est que c'est naître deux fois? Ben, c'est la nouvelle naissance. Et celui qui naît de nouveau, qui vient enfant de Dieu, là, il sait que la seconde mort n'aura pas pouvoir sur lui. C'est écrit dans l'Apocalypse. Par contre, celui qui n'est qu'une fois, la seconde mort aura un pouvoir sur lui, parce que ça sera l'enfer. Est-ce que je suis né de nouveau? Peut-être que vous connaissez tous, je l'espère quand même, votre date de naissance physique. Mais si je vous posais la question, est-ce que vous connaissez votre date spirituelle quand vous êtes né de nouveau? Vous pouvez dire, tiens, tel jour, je suis né de nouveau. Pour ma part, je peux dire qu'en février 76, je suis né de nouveau. Je ne peux plus dire le jour, mais je sais que c'est en février 76 que ma vie a changé, que je suis né de nouveau, que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai eu cette certitude que Dieu est mon Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Luc, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, mais Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et nous savons qu'il y a un autre passage qui nous dit, Jésus dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Mais un jour cette porte sera fermée, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. On a entendu parler de toi dans l'église de Ris-Orangis. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. » Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous serez à table dans le royaume de Dieu? Avec Abraham, Isaac et Jacob, avec notre Dieu, il y avait tous les croyants de tous les temps. Où est-ce que vous serez jetés dehors? C'est important. Peut-être vous vous posez des questions. Posez-les simplement et humblement devant Dieu. Cherchez-le et vous le trouverez.